Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et sinon pas de style, ils m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Et je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Eh bien le bonjour à tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission de Par le bout de la lorgnette avec l'ensemble de l'équipe qui est présente ici. Alors on va dire bonjour à Valérie tout d'abord parce qu'elle a oublié ses notes dans sa voiture.
Salut,
ciao, à bientôt. Héloïse est là également, salut Héloïse.
Salut tout le monde.
Salut Pauline.
Salut.
Salut Nico.
Salut.
Alors aujourd'hui nous allons parler d'un thème livre et musique, Héloïse.
Oui, tout à fait. Alors comme vous le savez sans doute, il y a beaucoup de livres qui ont été inspirés par la musique, par les artistes. Et c'est aussi, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musiciens qui revendiquent les lectures de certains bouquins pour l'inspiration de leurs chansons. Alors je vais en citer quelques exemples. Donc Ulysse de James Joyce pour Bob Dylan. Alan Poe, The Walrus pour les Beatles, Rimbaud chez Patti Smith, Le Capital de Karl Marx, Elvis Costello.
Ah bon?
Et oui, c'est étonnant.
C'est étonnant.
Tout type de livre peut inspirer des artistes. Et le meilleur pour la fin, Proust avec Dev, bien sûr. Donc nous allons aujourd'hui évoquer cette relation étroite entre les mots et le son et comment on peut faire vivre, on peut parler d'une musique... À travers des mots, à travers la littérature, voilà.
Eh bien, merci Louise. C'est vrai qu'on n'avait pas encore abordé ce thème, ce qui est un peu dommage en tant que radio. Mm-mm. Donc on te remercie d'avoir pensé à cette idée. Et d'ailleurs, on va mélanger musique et livre aujourd'hui, parce que c'est le thème. On va commencer avec Nico, donc je vais envoyer quelques musiques de fond. Allez, c'est parti, ça va arriver, on son.
Monseigneur l'astre solaire, comme je n'admire pas beaucoup, m'enlève son feu, oui, mette son feu, moi je m'en fous.
Alors bien sûr, vous avez tous reconnu Georges Brassens, Nico.
Voilà, Georges Brassens. Donc c'est un petit bouquin sur Georges Brassens, 1942-1949. En fait, c'est un bouquin qui... Donc aux éditions de Cherche Midi, un bouquin qui parle et qui traite aussi des chansons inédites qu'a écrit Georges Brassens.
Il y a des chansons inédites.
Oui, oui, et qu'il n'a jamais ni chanté, ni enregistré, ni enregistré en studio, ni chanté sur scène. Et donc là, c'est Yves Usureau qui a fait un petit CD qui accompagne ce petit bouquin et qui interprète 6 chansons inédites. On découvre aussi à l'intérieur de ce petit bouquin les textes manuscrits, parce qu'il faut savoir qu'en fait que la carrière scénique a commencé à Montmartre dans le cabaret de Patachou le 26 janvier 1952 pour Georges Brassens, mais il écrivait des chansons depuis très longtemps, depuis 1938, dès l'âge de ses 17 ans, et il écrivait ça sur des petits cahiers décollés à gros carreaux, et du coup il a écrit toutes ses poésies et toutes ses chansons en fait. Il les a déposées à la SACEM dès 1942. Donc c'est un des premiers membres de la SACEM.
Il avait de la suite dans les idées du coup s'il les a déposées si tôt.
Oui, parce qu'en fait lui il se vouait d'abord. Il faut savoir que Georges Brassens il se vouait pas une carrière de chanteur. Il se vouait plutôt une carrière d'auteur, d'écrivain, de poète. Et très tôt, en fait, il s'est mis à écrire des poésies qu'il a transformées en chansons. Et donc, on découvre des textes. Alors, la particularité de Georges Brassens, c'était quelqu'un de quand même très, très atypique, hein, puisque c'est quelqu'un qui était extrêmement discret, hein, qui est même décédé, on l'a su plusieurs jours après, il est décédé quasiment dans l'anonymat, c'est ses amis qui l'ont trouvé. Et du coup, c'est pas quelqu'un qui a fait... bon, qui avait une grosse présence, bien sûr, sur les ondes et la radio et sur scène plus tard. Mais c'est quelqu'un qui vivait quand même dans un univers relativement fermé et avec une extrême discrétion. C'est quelqu'un qui vraiment vient de l'éduc pop, qui était très proche des gens, très simple hein, dans sa vie. Et par contre, toute son inspiration, elle est basée en fait sur le regard qu'il a eu sur les autres, sur leur singularité, sur l'affection qu'il leur portait, sur le regard qu'il portait sur les autres, et notamment sur tous les amours qu'il a eu dans sa vie, certains qui étaient juste des amours platoniques comme ça, des rencontres, et l'imagination qu'il avait autour de ces rencontres. Comme par exemple les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, c'est vraiment l'observation hein, de jeunes couples, etc. Et donc il a beaucoup écrit là-dessus. Il avait un talent qui au début n'a pas été bien reconnu, qui s'est fait par la suite. Quand il a commencé à faire de la scène et qu'il a été reconnu musicalement. Mais c'est vrai que souvent on disait soit on aime, soit on n'aime pas Georges Brassens, parce que c'était à la fois sa diction, son style musical accompagné avec la guitare, des harmonies très 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 simples, très compliquées à rejouer et à interpréter d'ailleurs. Hein, mais
il était très marqué, oui.
Ouais, mais très marqué. Donc on pouvait vraiment ne pas du tout aimer, passer complètement à côté de son œuvre. Ce petit bouquin, en fait, c'est une façon de renouer avec le Georges Brassens des années 1942-1949. Et moi, j'étais très surpris. Alors, les premières pages, en fait, on a une photographie en fait de ces petits carnets. Donc, on voit les rayures, les ratures, etc. C'est assez mimi. J'ai trouvé ça assez sympa. Et après, on a vraiment que des chansons qui sont inédites. Donc, ces premières chansons. Donc, c'est vraiment à découvrir avec un petit CD très sympa.
Moi, j'ai regardé justement. Je l'ai feuilleté. Je ne connais aucune chanson. Alors que je connais quand même Georges Brassens.
Oui, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics.
Celle-ci, bien sûr, oui. Mais après, le reste, il y en a énormément qui pour moi, sont inconnus. C'est intéressant. C'est en fait une suite de textes, de ces textes de ces années-là, Nico. Uniquement. Y a pas, l'auteur n'intervient pas en biographie, en biographe. Non.
Par contre, il y a tout un prologue qui est remarquable, qui est écrit par Garcia Marquez. Voilà.
Ce grand écrivain.
Voilà. Et c'est très sympa à lire. Enfin, c'est assez court d'ailleurs. On prend plaisir en tout cas à revenir sur cet univers. Moi, je le conseille aussi à des enseignants qui aimeraient faire un petit travail sur son type d'écriture. Parce que c'est très simple à lire. Ça donne rapidement en quelques lignes un petit peu. L'image du personnage et de son engagement, de sa façon d'écrire. Et en lisant ces petites chansons et en réécoutant les six chansons inédites interprétées par Usuro, c'est une belle approche de Georges Brassens.
On pourrait comparer ça à un ouvrage de poésie ?
Ouais, moi je l'ai pris d'abord pour un ouvrage de poésie, d'une première écriture. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui écrivent de la poésie ou qui écrivent des petits textes comme ça sans forcément les mettre en chanson, et c'est ce qu'il a fait là quoi. En fait, il a écrit ça et ça a été mis en chanson un petit peu après.
Merci Nico. Quelles sont les éditions et quel est le titre exact ?
Édition Cherche Midi, donc Georges Brassens, première chanson 1942-1949.
Allez, on passe à notre deuxième morceau qui va démarrer d'ici peu de temps. Ouais, j'ai oublié de couper les blancs avant et après, j'ai pas eu le temps. On est à l'arrache aujourd'hui. C'est parti. C'est le titre où l'artiste Happy Monday, Héloïse.
Happy Mondays, oui, tout à fait.
Et pourquoi ça ?
Alors, c'est une longue histoire. Je vais essayer de faire court, mais ce livre contient tellement de choses que... Je vais peut-être être un peu longue, mais passionnante, je vous assure. Donc, c'est un livre écrit par Peter Hook. Est-ce que vous connaissez Peter Hook autour de la table ?
C'est le frère de John.
C'est pas un rapport avec le capitaine Crochet ?
Non plus.
C'est Cook.
Non, c'est Hook.
C'est Hook.
Ah, ok.
Alors, Peter Hook, les gars, membre fondateur du groupe Joy Division.
Ah, mais voilà.
Le bassiste.
Mais les bassistes, on les aime pas. Oh. On les aime pas, les bassistes.
Dit-elle avec un sourire jusqu'aux oreilles.
À part McCartney.
D'accord, merci le secteur des Beatles, ça va.
Ouais.
Donc, membre fondateur du groupe Joy Division et ensuite de New Order. Originaire de Lancashire, près de Manchester, il était un des heureux et à la fois malchanceux propriétaires du célèbre club La Hacienda à Manchester. Et donc, le livre que je vais vous présenter s'appelle La Hacienda, la meilleure façon de couler un club. Donc, je vais vous faire un petit résumé du livre et de l'histoire de ce club mythique. Donc, la Fac 51, ou plus communément appelée, le nom est resté dans les mémoires, donc appelé par tous La Hacienda, c'était un club et un label de musique, le premier club anglais à passer de l'électro. Laurent Garnier y a fait ses débuts, Madonna y est passée, donc les Happy Monday y étaient quasiment toutes les semaines, New Order également. Il y a beaucoup, beaucoup de DJ qui ont fait leur première scène là-bas, en fait. Ce club était une sorte d'utopie où il y avait beaucoup de... C'était comme un groupe, en fait. Il y avait beaucoup de personnes d'extérieur, mais il y avait aussi un groupe fondateur avec un peu des hippies, on va dire, des hippies rock'n'roll. Avec l'utopie, donc tout ce qui est la drogue, tout ce qui est... Je sais pas comment dire, parce qu'ils étaient assez cool et en même temps, ils étaient assez violents aussi. Donc hippie rock'n'roll, ça peut convenir, non ?
Ils étaient rock'n'roll.
Ouais, des hippies
rock. Ouais, voilà.
Ouais, t'as du mal à imaginer le mélange des.
C'est des blousons noirs avec un arc-en-ciel derrière.
C'est ça. Et une licorne.
Une licorne.
Surtout la licorne. Et donc, c'était surtout aussi un gouffre financier, ce club. Et donc, Peter Hook raconte tous les déboires et toute l'histoire du club avec des anecdotes hyper drôles, comme quoi, par exemple, une fois, ça leur est arrivé même plus d'une fois qu'on leur vole leur matos de musique dans le club et qu'après, les voleurs viennent leur louer à eux. Enfin, c'est assez absurde, c'est très drôle, voilà. Et c'était des bonnes poires et ils étaient assez naïfs, ils n'avaient jamais fait ça, c'était des musiciens. Et du coup, ils montent ce club et ils tâtonnent et ils ne savent pas trop comment faire. Donc c'est très drôle. Je vais vous lire une petite phrase d'introduction. Pardon, ça introduira un peu le style de Peter Hook. Si à de nombreux égards l'histoire de La Hacienda n'est pas très reluisante, les gangs, la drogue, la violence, les flics, il reste la légende. C'était un super club avant même l'invention du terme. C'était le berceau de l'explosion Acid House dans le nord de l'Angleterre et l'œil du cyclone de Manchester. Deux mouvements musicaux qui ont fait le tour du monde. Elle a abrité trop de soirées et de concerts géniaux pour tous se les rappeler. Cela ne signifie pas que j'étais en état de me les rappeler. Voilà.
Ouais, ça image bien ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure.
Voilà.
Happy Mondays
Alors, les Happy Mondays, c'est un groupe du nord de l'Angleterre avec des bons accents.
Manchester.
Voilà, exactement. Et donc c'est comment dire, je sais pas trop qualifier leur musique. C'est en même temps de la house, c'est un peu, il y a des phases de reggae. Enfin c'est très spécial et c'est un groupe qui se droguait énormément et qui ont fait les belles heures de La Hacienda et qui ont donné lieu à des concerts mythiques où il y avait pas forcément de musique mais un gros spectacle. Ils avaient par exemple un membre du groupe qui s'appelait Bez, B-E-Z. Et qui ne jouait absolument d'aucun instrument. Il était juste engagé là pour danser. Il dansait d'une façon incroyable.
Pardon ?
Non, pas John.
Joanne. Ouais. Ça, c'est marrant, ça. Moi, j'avais un groupe de musique. Pareil, on avait un copain qui faisait croire qu'il jouait du piano, mais il n'était pas branché pouvoir manger gratuitement.
Il faisait du air piano.
Payé en nourriture et en bière. Et il nous a suivis comme ça.
D'accord. Bah, il apportait peut-être une petite touche look aussi à votre groupe.
Oui, il a porté bien plus.
Bon, du coup, voilà, c'est un livre extrêmement complet. plein de témoignages et d'anecdotes sordides.
C'est quoi, ce geste ?
Et drôles.
Il n'y a toujours pas de vidéo dans cette émission.
On en profite. Il vaut mieux.
On en profite.
Promis, il vaut mieux.
Donc voilà, c'est les coulisses de cet univers totalement fascinant et l'émergence d'un style musical dont c'est hyper passionnant.
Est-ce que La Hacienda a fermé ?
Alors, bah oui, je vais vous expliquer tout ça.
Oh. J'aurais bien été.
Ouais,
ah oui, aussi. Non, mais si c'est mythique, c'est que ça n'existe plus. Ouais. Il vaut mieux, je pense. Donc, le club ferme en 1997, après 15 ans de bons et loyaux services pour les jeunes de Manchester. Et il ferme suite à l'overdose d'une jeune femme qui meurt dans le club. Voilà. Donc, ils avaient déjà pas mal de problèmes avec la police,
aussi,
etc.
Hein. Ouais.
Voilà. Et le bâtiment est détruit en 2002. Et donc l'espace vide à Manchester de ce bâtiment donne lieu à plein de pèlerinages de toutes sortes de fans.
De drogués.
Qui viennent se droguer, faire des overdoses.
Non,
sur...
qui lèchent les murs en disant.
On parle de musique, là, dans un premier temps.
Il en reste, là, il en reste.
Attends, Ludo, New Order, par exemple. T'aimes pas New Order?
Je ne connais pas New Order.
Mais tu sais que Ludo, il va ouvrir un nouveau lieu en bas, là.
Ouais, je vais l'appeler l'Hacienda.
Ouais. Bah, moi, je cherchais. Eh, c'est vrai, ça pourrait être génial.
L'Hacienda, c'est bien. Ouais. Ça sonne bien. Très bon, ça.
Ouais, c'est super.
Pèlerinage, bim.
C'est les membres de Joy Division qui ont fondé New Order. Par la suite, une fois qu'Ian Curtis était décédé.
Ça va s'appeler l'Hacienda by Hook.
Voilà, et donc, pour compléter, ou avant de lire ce livre, je vous conseille de regarder un film absolument génial qui s'appelle 20 Hour Party People et qui est aussi sur l'histoire de l'Hacienda, qui est très rock'n'roll et qui est passionnant. Et de lire aussi le deuxième livre de Peter Hook, qui est consacré au Joy Division et qui s'appelle On No Pleasure.
Hook et...
Voilà.
Ok, c'est à quelle maison d'édition
Alors, c'est Homo et le reste. Et si tu veux bien, je dirai un petit mot tout à l'heure avant que tu parles sur le Homo et le reste, parce que c'est.
Bien sûr.
Ça fait partie des trois maisons d'édition qui publient beaucoup de choses sur la musique et qui sont vraiment importantes dans le paysage éditorial français. Voilà.
Ok, merci beaucoup, Héloïse Lacienda. Alors, n'hésitez pas. C'est sous forme romancée, quand même, j'imagine.
Alors, c'est vraiment un témoignage. Et même d'ailleurs, il y a un chapitre par année d'existence de Lacienda. Et à la fin, vous avez toutes les affiches qu'il y a eu par mois. C'est vraiment des vrais documents. Vous avez aussi les bilans comptables qui sont très drôles. Et voilà, c'est vraiment un vrai document.
Ouais,
mais ça se lit comme un roman, tellement c'est incroyable comme histoire.
Ok, super, on va changer de morceau. Alors la personne qui doit présenter le livre va se reconnaître.
J'ai pas de casque, donc j'entends pas le morceau qui passe. Mais vu que tout le monde me regarde.
Voilà,
c'est chouette, ça vous plaît?
C'est très bien, Nina Simone, Revolution.
Ouais, j'ai choisi le titre de ce titre-là, puisque je trouvais que ça allait bien avec l'actualité du moment. Voilà, tout simplement.
Pourquoi
mais
pas.
Après, j'ai choisi Nina Simone grâce au livre que j'ai dans les mains. Un des plus beaux livres qui m'a été
donné, de
toucher dans mes mains. Quand j'ai commencé à lire, j'ai eu envie de mettre une robe jusqu'aux genoux, me faire une super choucroute coiffure, enfiler des petits gants blancs et prendre toutes mes copines afro et aller dans le Jazz Club de la New Orleans. C'était super.
Tu les as là, tes copines afro?
Bah oui, exactement.
Enlève ta perruque, Pauline.
Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, ce livre, c'est un très, très, très gros et beau livre dont le titre est Verve. C'est le logo donc, de la maison, maison d'édition Verve. Comment vous dire plutôt que de présenter vraiment le livre, je vais vous parler de la maison d'édition. Donc, c'est un Verve, c'est un label qui a été fondé par un homme qui s'appelle Norman Granz et qui a enregistré, qui a à son actif tous les plus grands, les plus grandes stars planétaires du jazz. L'histoire de Verve donc débute en 44 lorsque Granz décide de produire des concerts en réunissant en fait les plus grosses stars du jazz et ça s'appelait le Jazz at the Philharmonic. Puis il y a des pros jazz, ils connaîtront. Moi je ne connaissais pas donc quand j'ai lu le livre donc j'ai découvert un peu au fur et à mesure. Il était un peu ambassadeur donc il essayait de faire monter sur scène un peu tous les grands noms du jazz mais avec des styles un peu différents, le swing, bebop, enfin, plein de styles différents.
Alors qui y avait comme grand chanteur de jazz?
Ils en ont mis plein, ça allait
Armstrong.
Ouais, il y a eu Armstrong, il y a eu Bud Powell, Billie Holiday, Nina Simone, Bill Evans, Oscar Peterson, Lester Young, il y en avait
C'est bien de les citer parce qu'en fait beaucoup de gens oublient et ne savent même pas de quoi on parle.
Ouais, puis le jazz c'est pas quelque chose qu'on a tendance à vouloir à trop écouter. Enfin, moi, c'était plutôt de la musique d'ascenseur pour moi, le jazz. Et là, en fait, dans ce livre, il va reprendre tous les gens qu'il a produits, tous les disques qu'il a sortis, et c'est bourré d'anecdotes sur les artistes qu'il produit. Il y a un truc qui est génial au départ, et ça montre bien la mouvance du jazz. Il y a une carte chronologique qui part de 1900 jusqu'en 1980, où c'est qu'il relate tous les événements qui se passent aux États-Unis, puisque c'est un label américain, je ne sais plus si je l'ai dit. Et en dessous, il met les albums qui sortent. Et ça permet de voir vraiment l'évolution du jazz, enfin de ce label, qui est quand même jazz, tout au long de cette période-là. Donc là, c'est il va vraiment apporter un plus donc avec ce label-là, produire des gens super. Et tout ça, c'est résumé, le livre il est énorme, enfin, il est très très gros, c'est rapporté dans ce livre où même si on n'est pas fan de jazz, même si on n'a pas une grosse culture jazz, il y a des photos superbes, des affiches, enfin, c'est bien documenté, mais en même temps si on n'a pas envie de lire, moi j'ai pas franchement eu le temps de le lire en entier, donc j'ai juste lu les légendes des dessins, ouais. Non, mais c'est ça.
Les numéros des pages. 12,
c'est ça.
13,
non, c'est pas
14.
Numéroté en plus, je crois. Tu me confirmes, Nico, vu que tu me l'as pris des mains.
Si
c'est numéroté. Ouais. Ah, mais tu vois, j'avais pas vu. Mais c'est voilà, il y a des super images et ça.
Oui, très très belle.
Ah ouais, on se replonge vraiment dans cette ambiance. Enfin voilà, moi ça me faisait penser à la New Orleans.
Il y a 400 pages.
C'était génial. C'était génial.
Oui, c'est un bel ouvrage.
Il est super.
C'est la première fois qu'il y a un livre aussi complet qui sort sur ce label et sur le jazz américain en général. Hein. Vraiment, c'est une bible. Hein.
Et on s'arrête voilà à Diana Krall qui est plus contemporaine du coup sur ce livre.
D'accord. Et le label s'appelle Verve.
Verve.
Parce qu'on connaît énormément Blue Record, des labels comme ça.
Ouais, mais c'est les mêmes.
Non, mais quand tu as, si tu regardes chez dans ta famille.
Il a pas de famille.
Des vinyles de jazz, tu retrouves ce label. Hein. C'est assez
ouais,
cool.
Le logo ouais,
parle beaucoup avec le
R. Ça, on les mettra tous les livres dont on parle aujourd'hui, comme ça, si quelqu'un veut retrouver, par exemple, un livre de cuisine ou autre, il aura le.
Oui,
il pourra retrouver
sûr,
sur
il pourra
le site.
Facilement.
Hein,
j'ai retrouvé.
Attends, en tout cas, oui, c'est un très beau livre cadeau, hein, finalement.
Il est super.
Parce que il est très, très beau, très, très bien documenté.
Puis pas forcément aux amateurs forcément de jazz, mais quelqu'un qui a une petite, un petit penchant ou pour les États-Unis, ouais, ou pour cette période, ou pour la musique en général. C'est pas, contrairement à celui dont je parlerai tout à l'heure, on n'est pas sur un style vraiment précis, même si le jazz c'est quand même très très large, ça ouvre sur la bossa nova, ça ouvre sur plein de trucs.
Bah ouais, il y a
génial.
Du George Benson,
ouais.
On mais dirait c'est pas que c'est du jazz, mais c'est du jazz, ouais.
C'est génial, voilà, c'est vraiment, et puis les photos sont belles, les explications sont claires, tout en étant bien, bien fournies, c'est vraiment un super beau livre, gros, mais beau.
C'est un livre historique aussi également. On voit l'évolution de ces personnes-là. On sait qu'au départ du jazz, les gens de couleur n'étaient pas forcément.
Oui, ben là, il en parle. En fait, par exemple, Norman Granz, il a fait un truc génial. C'est que c'est quelqu'un qui était pas du tout prêt à accepter la ségrégation. Et donc, dans les concerts, c'était en pleine époque où tu avais le côté, d'un côté pour les noirs, d'un côté pour les blancs. Et tout était étiqueté et tout ça. Lui, il allait, avant ses concerts, tout arracher. En fait, il refusait que les gens de couleur. Noir,
se sont
séparés
pas.
Des gens de
génial.
Couleur blanc, quoi. Donc, et ça lui a valu d'être arrêté. Il a fait quelques nuits de garde à vue parce que justement, il prenait la défense des. Oui, d'ailleurs, il a produit, quoi, après des personnes.
Après,
de
il
couleur.
Dit quand même que le jazz. Fait une phrase que j'ai lue là, que je trouve intéressante, c'est quand on lui dit mais d'où vient le jazz ? Il dit le jazz est né il y a 300 ans. Donc, à l'époque, il disait ça. Le jazz est né il y a 300 ans. Il est venu. D'Afrique, enchaîné. Voilà. C'est pour dire dans quel contexte le jazz est apparu et s'est créé. Et...
C'est une très belle phrase.
Et ce Norman, du coup, tu sais d'où il vient ? Enfin, comment ça se fait ?
Bien sûr, elle s'est renseignée,
imagine. Non, mais parce que, tu vois, pour un blanc à cette époque, est-ce que ça vient de son éducation, cette ouverture d'esprit ? Est-ce que ça vient de là où il a grandi ou non ? On ne sait pas trop. Il
ne
parle pas
forcément
de...
Non, mais j'ai pas recherché parce que là, sur lui, il ne parle pas forcément de lui.
Oui, de son
Il parle plus de sa profession et c'est vrai que je n'ai pas eu la curiosité d'aller chercher pourquoi.
Oui, parce que c'est très bien et c'est étonnant, quoi.
Oui, pour moi, l'ouverture d'esprit, ça doit être... une logique et non pas l'inverse.
Il existe
donc,
encore
vrai,
à New York
posé la question.
Beaucoup de clubs, de cabarets comme ça.
Oui.
C'est Jean-François qui racontait ça quand il est allé à New York.
Ah, ça reste.
Il s'est régalé et ça reste encore.
Il y a une culture jazz.
Mais là, tu t'y plonges dedans. Tu sens presque les cigares, tu vois les couples danser quand tu es dans le livre. Il est vraiment. C'est prenant. Et même si, comme je le disais, tu n'as pas une affinité particulière avec le jazz. Waouh! Puis ça donne envie d'écouter. Enfin, moi, ça m'a donné envie de sortir des albums, justement, de Nina Simone. J'avais complètement oublié cet extrait
Serge
Révolution.
Lama,
aussi. Et Laurent Blanc.
Laurent Blanc.
Disque 33 tours.
Joël Batz.
Aussi, Gardien de ma vie.
Gardien de ma vie. On va en parler dans cette émission.
On avait dit qu'on en parlerait. Ouais, donc, un super livre. Vraiment, c'est souvent les livres comme
c'est un
ça.
Coup de cœur.
Ouais, puis les livres où il y a beaucoup de choses à voir, j'ai du mal à. Enfin, ça me plaît, mais j'arrive pas à avoir vraiment un coup de cœur.
Tu vois bien devant un feu de bois là, avec une petite, petit whisky, une petite bière, c'est ça.
Pourquoi pas? Pourquoi
avec ce
pas,
bouquin ouais. sur avec les genoux, à un petit fond musical de Sam Gates. Ouais. Ou...
D'ailleurs, il y a des traces de vin sur
une,
la.
Une petite peau de tigre.
Si vous achetez ce livre,
nettoyez-le.
Si vous achetez ce livre à la lorgnette et qu'il y a une tache de vin, c'était celui de Valérie.
Fourni avec les lingettes antibactériennes.
La maison d'édition, c'est.
Textuel,
rien à dire sur cette maison.
C'est une chouette maison qui fait beaucoup de beaux livres, pas particulièrement sur la musique, ils en ont quelques-uns, mais vraiment c'est des livres, ils en sortent très peu, mais à chaque fois c'est des livres de bonne fabrication, d'un bon choix de typo, enfin c'est vraiment des beaux objets.
Et puis alors c'est rigolo parce qu'il est très gros, mais il est léger. Moi, je commence à me dire, oh là, je vais avoir mal.
Alors, ça, c'est de l'info. Hein,
ouais. Oui, mais tu sais.
Il est gros, mais il est léger.
En fait, c'est le papier, Valérie. C'est ça.
Il est rempli d'air.
Non, non, mais c'est ça. Tu sais, tu te dis, je vais le lire dans mon lit, mais s'il pèse 3 tonnes, t'as pas envie de l'avoir sur toi. Moi, je m'endors en lisant, donc j'avais peur.
Jamais ces questions-là, moi.
Mais là, il est énorme,
toi,
il est léger.
Pas dans ton lit,
ils ont choisi un type de papier, en fait, qui est léger parce que tu vois, il est mat, aucune image n'est brillante à l'intérieur. Et du coup, c'est un papier qui est très léger.
Oui, mais c'est important.
Ok, merci.
On ne se moque pas de cette remarque. Que c'est important.
On ne se moque pas. Par contre, je vais un peu me moquer. Alors, parce que bon, il faut savoir qu'on est à l'arrache dans cette émission. D'ailleurs, quand on a commencé, il n'y avait pas tout le monde. On s'est retrouvés 30 secondes avant. Alors, il y a à peu près environ une heure et quart, j'ai envoyé des messages en disant mais vous avez lu des livres sur la musique. Est-ce que vous pourriez m'envoyer des musiques en rapport avec les ouvrages que vous avez lus, celles qu'on vient d'entendre? Et là, au lieu d'écouter une musique, je vais lire un petit message que j'ai donc envoyé à Pauline en disant est-ce que tu peux m'envoyer une musique par rapport au livre que tu as lu? Réponse de Pauline. J'ai lu un bouquin sur le thérémine, un instrument qui fait djou. Pas sûr que ce soit très radio écoutable. Très bien, Pauline.
As-tu trouvé du coup un le bruit de thérémine?
Eh ben, je sais pas si vous voyez Mars Attack un peu, le film Mars Attack. Non, il y a une petite musique qui fait
la musique des Martiens.
Et voilà. Donc j'aurais été accompagnée par ce genre de son. Grémy, une ambiance.
Je suis sûre qu'il a trouvé.
Bizarre.
Non, je n'ai pas cherché. Ce djou, ouais.
Ce duo électronique là du thérémine qui n'était pas du tout à la base pour faire une musique genre Mars Attack, hein. À la base c'était créé pour faire de la musique classique. Et donc voilà, mon bouquin c'est l'histoire de Lev Sergeyevich Temen, donc l'inventeur de ce fameux instrument, le thérémine.
T'as été puni la dernière émission, je n'étais pas
c'est
là.
C'est incroyable.
Pourquoi on t'a donné ça là?
On a tous choisi.
Je pense qu'en fait, Héloïse t'aime pas. Finalement. Hein, Nico?
Ouais, je vais vous dire le contexte, vous allez voir.
C'est mais je suis sûre que ça va être passionnant.
Non, c'était un chouette livre parce que donc, au départ, on
mais
est.
Mais si tu veux pas en parler, n'en parle pas.
Si, mais si j'ai très envie d'en parler parce que j'ai très envie que les gens le lisent. Franchement, c'est à lire.
Bon, merci.
Ouais.
Je t'adore.
C'est vraiment pas méchant. Donc voilà, on est à bord d'un cargo qui ramène Temen, on va l'appeler parce que je vais pas dire ça me lève Sergeyevich Temen à chaque fois. Et donc ce cargo le ramène des États-Unis jusqu'en Russie, d'où il est originaire. Voilà. Et donc il écrit à Clara, qui est son seul véritable amour. Et donc là, on a plein d'histoires qui commencent, toutes centrées sur Temen, là, le docteur Lev. Et on est donc quelques années après la révolution bolchevique, et Lev, c'est un physicien, il est passionné d'électromagnétisme, et il est envoyé en représentation aux États-Unis sur ordre du gouvernement, accompagné d'un gars qu'il connaît pas vraiment, qui s'appelle Pache. Puis, il est à la fois son mentor, son agent, son garde du corps, et puis après on comprend que c'est peut-être aussi un peu un espion. Bref, leur mission, sous couvert de la promotion du thérémine, cet instrument particulier dont il est l'inventeur, ils vont devoir nouer des contacts et en fait créer des possibilités d'espionnage industriel, qui serait utile à un moment donné. Mais tout ça, c'est vrai, c'est absolument incroyable. Au début, tu lis, tu dis, c'est pas possible, c'est hallucinant cette histoire. Non, c'est vrai, c'est vraiment l'histoire de Lev. Et donc, on a en parallèle plein d'autres histoires. On a l'histoire de la passion de Lev pour Clara, qui en fait une jeune fille qui est plus jeune que lui, qui est violoniste, qui rencontre à la fin des années 20, qui a un problème musculaire au bras et qui était à la base violoniste, qui doit s'arrêter de jouer du violon, et il lui dit bah, écoute, essaye le thérémine. Et elle devient une joueuse extraordinaire de thérémine. Vous pouvez aller voir sur Internet, il y a des vidéos. Elle joue notamment, on trouve une vidéo du signe de Saint-Saëns. Et là, on n'est pas du tout dans les dioudiou de Mars Attack, on est vraiment dans le signe de Saint-Saëns. C'est assez incroyable. Et du coup, bah voilà, c'est aussi, surtout, hein, on est quand même dans une émission sur la musique, on est surtout sur l'histoire de cet instrument, le térémine.
C'est un drôle d'instrument, d'ailleurs. Hein.
Hey, ouais. Je vois pas à quoi ça ressemble, en
mais
fait.
C'est de l'air. Moi, j'avais jamais vu ça. Alors, le son...
Ça, c'est...
Voilà, là, on l'entend, là.
Enfin, pour ceux qui ont des casques.
Ça ressemble un peu à scie musicale.
C'est moi, oui. Over the Rainbow.
Ouais. Oui, c'est un peu la scie musicale.
C'est Mars Attack, tu as absolument raison.
Mais oui, voilà, c'est ça. Mais c'est, ça a été utilisé dans plein de chansons.
Mais il y avait un gars, Nico, qui était venu faire du théâtre jeunesse.
Et Hitchcock,
qui faisait de
ouais, ça peut faire très musique d'ambiance. Ouais, ouais. Et du coup, voilà, c'est un des premiers, voire le premier, je crois, instrument de musique électronique. Et même dans les années 20. Voilà, c'est pas quelque chose qui courait les rues. Et du coup, il a... en plus, c'est assez particulier parce qu'on le joue sans le toucher. Donc, on passe ses mains au-dessus dans un champ électromagnétique. T'as deux antennes qui créent le son. Donc, c'est super étonnant. Ça éveille plein de curiosités.
Ouais. J'ai vu un spectacle hier, justement, avec cet instrument.
C'est pas vrai.
Ouais, ouais, tout à fait.
Mais une fois, il y avait
un... Une japonaise et un guitariste rock'n'roll qui intervoit de la musique classique. Et lui, il joue de ça, ouais.
Il y avait eu un gars qui était venu sur un spectacle jeunesse aussi oui, qui en faisait, oui, mais ouais, j'arrive pas à me rappeler lequel.
C'est de temps en temps utilisé, oui. Ben c'est très très difficile.
Mais sur des courtes,
ah bah oui, parce qu'il faut saisir la note voilà. Dans le voilà,
t'as la main
dans
droite.
L'espace. T'as aucune...
T'as la main droite, c'est la variation d'intensité.
Voilà.
Donc tu pars du bas vers le haut. Si tu restes la main en bas, en fait, ça génère aucun son. Et quand tu montes la main, le volume augmente. Et l'autre, après, c'est le positionnement des doigts.
Ouais, t'as et, voilà. Ça distribue le volume. Enfin, ouais. Assez, et la tonalité, c'est, très, très
ouais, c'est assez étonnant.
Ah ouais, ouais, ouais.
Mais du coup, je me demande si c'est encore fabriqué comme instrument ou on en trouve que d'occasion.
C'est un instrument électronique et c'est encore fabriqué, d'accord. Mais c'est très très petit. C'est un peu comme, je sais pas, un petit décodeur TV, tu vois, avec deux antennes.
Ah ouais, maintenant, j'ai cette taille-là. Les modèles récents, il y en avait beaucoup. J'en ai trouvé beaucoup sur Internet en cherchant des recherches.
Je suis spécialiste de
d'occasion.
Et ça coûte combien? Ça coûte cher.
J'ai pas été voir les prix.
Tu peux regarder sur le bon coin, Ludo.
Non, c'est pas forcément très très cher non plus.
Mais je me dis quand même, c'est quand même des curiosités. Ah bah c'est vachement étonnant fait, ouais. Comme instrument. Et du coup, ce lève-là, il va jouer.
300€, 499, 400, c'est dans ces prix-là, ouais. Ouais.
Non, mais si tu veux te lancer pour ta carrière, bon. Pauline, on fera un Kiss Kiss Bank Bank pour t'aider.
Hein. Absolument.
Ouais, non, on sera là, t'inquiète pas.
Revenons à notre histoire.
Oui, ouais, parce que ça, l'histoire de Lev, elle est quand même assez incroyable. Il va déjà d'abord jouer devant Lénine dans les années 20. Il va jouer devant Gershwin, il va jouer devant Paul Valéry, il va jouer devant Ravel.
Histoire vraie.
Et tout. Alors, il y a des petites choses romancées, il y a des petits ajouts, mais c'est assez clair. On sait, voilà, par exemple, il le met, je ne sais pas pourquoi, il a décidé qu'il jouait du kung-fu, qu'il faisait du kung-fu. Et ça, ce serait pas vrai. Alors, j'ai trouvé ça particulier de rajouter cet aspect à la personnalité.
Excellent, cet auteur.
Ouais, c'est très étonnant. C'est, tu vois, mais Groucho Marx a investi, s'y est mis. Enfin, ça a eu un succès fou. Et franchement, quand Shawn Michaels, l'auteur, hein, parle du térémine, vraiment, tu l'entends. Quand il parle de la façon d'en jouer, tu vois les joueurs. Enfin, il est hyper clair. Et même, bah voilà, je vous dis Zhou, mais même quand il dit Zhou, on l'entend ce son, c'est génial. L'écriture sur la musique, quand il parle de la musique, c'est fantastique. Franchement, il écrit, il a une écriture incroyable, Shawn Michaels. Et du coup, on est en plus dans un univers, à un moment, donc on est à New York pendant la Prohibition, donc notre Lev, là, il fréquente les bars clandestins, il va danser dans les clubs,
club
il y a une ambiance
jazz.
Géniale. Bah, voilà,
ça doit lui changer de la Russie.
Il est peut-être en photo sur ton livre.
Ouais, tout bien. Aussi bien, j'ai pas bien. Vu un joueur de térémine.
Donc voilà, on a toute cette effervescence, toute l'ambiance qui est hyper bien rendue, les personnages, ils sont hyper consistants, il y en a qui sont très drôles. À un moment, il a affaire à deux espions, Carl et Carl. L'un avait une moustache et pas de barbe, l'autre une barbe et pas de moustache. Il a vraiment un petit côté un peu farfelu parfois, hyper sérieux d'autres, il parle bien de musique. Enfin, voilà, c'est le premier roman de Shawn Michaels et c'est hyper bien écrit, c'est plein de rebondissements, c'est hyper étonnant, c'est plein de faits historiques, c'est super vivant. Bon, je pense qu'il a vraiment bien choisi son sujet pour le coup... Ce Lev, là, il a eu une vie assez hallucinante. Mmh. Il est passé un peu à la trappe, on n'en parle pas beaucoup, mais franchement, ça vaut le coup de le lire par curiosité sur la personne, par curiosité sur l'époque, pour l'écriture de Shawn Michaels, c'est excellent, c'est génial.
Bravo Pauline, tu nous as donné envie de lire.
J'espère bien.
C'est quelle maison d'édition cette fois-ci ?
Rivage.
Rivage, d'accord.
C'était pas si nul que ça mon choix finalement.
Mais non, écoute, pas du tout.
Ça paraîtrait... C'est un gros livre ou pas ?
Ça fait 400 pages.
400 pages, romancé, j'imagine c'est drôle à des moments.
Ouais, il y a plein d'ambiance.
Ça a l'air.
Excellent.
Ok, très bien. Allez, on va faire une pause musicale, justement, avant de reprendre avec le livre que je vais vous présenter, qui est en lien avec la musique que l'on va entendre. Très bien Valérie, allez c'est parti. Tu chantais du Nico Valérie, je te laisse, tu chantais du Nico pendant la pause.
Oui un petit peu.
Vas-y.
C'est Blue Velvet.
Vas-y.
Blue.
Très bien, merci. Velvet. Voilà.
Je suis avec du pâté dans la bouche.
J'ai rien dans la
bouche. De la chambre de sa voix, c'est
juste une voix horrible.
Ah ben Nico avait pas une très très belle voix franchement, donc Nico vous l'avez reconnu avec le Velvet Underground. Je vais vous présenter le livre de Serge Ferré, Nico Femme Fatale chez Le Mot et le Reste. Je te laisse présenter cette maison d'édition avant.
Donc Le Mot et le Reste, c'est une maison d'édition qui est basée à Marseille, qui a été fondée en 96 par Yves Jolivet. Il publie à peu près 25 titres par an, dont la moitié porte sur la musique. Et il y a plein de thèmes très riches et très pointus, par exemple l'histoire du rock alternatif russe, le rap indépendant des années 90-2000, enfin il y a tout plein de choses, vraiment. Et c'est N-Team. Okay. Et du coup, c'est la, fin, même si c'est des thèmes pointus, la collection est hyper abordable, les textes sont faciles à lire et on apprend tout plein de choses. Et il y a toujours des playlists avec pour pouvoir écouter, pour des pistes en fait, d'écoute. Et c'est une super maison d'édition qui fait un travail remarquable sur ce sujet-là. Voilà.
En tout cas, c'est une très belle biographie, très bien écrite, une biographie sur l'histoire de Krista Paffgen, la future Nico. Alors, c'est sur c'est les ombres de cette femme, ses sentiments, c'est une histoire de cet enfant, qui, une enfant de la guerre finalement, qui a été top modèle, qui a été future star de l'underground, qui a été l'égérie des plus grands. Alors, je vais en citer quelques-uns, de Bob Dylan, Brian Jones, Lou Reed, Jim Morrison, Iggy Pop, Fellini, Alain Delon, dont elle aura un fils que l'acteur français ne reconnaîtra jamais d'ailleurs. C'est une très belle biographie, très bien écrite, qui nous apprend la vie de cet artiste, un brin mythomane, une comédienne ratée, mais qui incarne quand même la princesse des nuits décadentes de la Dolce Vita, modèle des films expérimentaux de Philippe Garrel, qui fut son compagnon. Elle est née en 1938, donc je vous l'ai dit, dans une Allemagne qui est en ruine. D'une famille aisée tout de même de Cologne. Son père divorce de sa mère avant son arrivée, donc c'est le début d'une longue série de déceptions. Elle naît dans ce Cologne qui est à reconstruire et elle est fascinée justement par la chute et l'autodestruction. Ça l'a marqué dans sa jeunesse, voilà, ce Cologne dévasté, cette envie de se reconstruire. Et d'ailleurs, sa devise était « créer pour exister ». Elle est décédée en 88 à Ibiza, donc elle fait partie des gens qui sont décédés, qui ont une mort complètement débile. Elle est morte à vélo. Voilà. Elle s'est fait renverser. Ou elle a une insolation. Elle a une insolation, elle a fait une chute, elle est morte. D'accord. Il y en a, comme Le Corbusier, comme d'autres grands de ce monde. Alors, le tournant de sa carrière à Nico, c'est bien entendu déjà Andy Warhol, qui était fan du Velvet et qui l'a qualifié de plus belle femme du monde. Et donc, le Velvet Underground, où elle deviendra sur certains titres la chanteuse. Ils ont changé souvent de chanteur, de chanteuse. Et notamment, elle a participé à l'album À la banane, que tout le monde connaît, du Velvet, album qui la consacrera. Après, elle a fait des albums, elle, en solo, dans lesquels... Elle repousse entre folk et avant-garde, elle repousse les limites du rock. C'était vraiment une artiste pure et dure, c'est-à-dire, voilà, je cherche à créer, je cherche à inventer, je cherche à aller au-delà de la mode, de ce qui se fait actuellement. Elle fait des expérimentations linguistiques à la James Joyce. Elle adore cet auteur irlandais qui a écrit, on le sait, Ulysse, qui est un très très grand auteur. Alors, c'est une artiste dans tous les sens du terme, car c'est un personnage à fleur de peau qui a vraiment une sensibilité exacerbée. Elle a des côtés extrêmement sombres. Pour exemple, elle a été, dès son plus jeune âge, elle a subi un viol par un personnage de couleur noire, donc elle se qualifiait elle-même d'anarchiste nazie. Alors, quand on la connaît dans le milieu underground, punk, se qualifier d'anarchie nazie elle a toujours mis de côté les personnes de couleur à cause de ce viol et ça l'a perturbée toute sa vie. C'est pour vous montrer qu'elle a également des côtés sombres et que c'est vraiment l'artiste dans l'âme qui exagère tout, qui est à l'extrême.
Elle a des conflits intérieurs. Ouais.
Elle a des conflits intérieurs, oui, absolument.
Et c'est quelque chose quand on la voit, enfin quand on ne se doute pas parce que c'est plutôt un personnage solaire et tout à fait.
Elle a un côté extrêmement glamour qui cache justement ce côté sombre. Voilà, c'est les extrêmes de ce personnage. Elle, quand je disais au départ, elle est un vrai mythomane, elle se racontait des vies. Voilà, quand on lui demandait d'où tu viens, etc., avant qu'elle soit connue, elle racontait toujours une histoire différente. Pour elle, c'était une manière de se créer une vie, de se créer quelque chose. C'était même pas pour se cacher, se créer des personnages. Elle a vécu longtemps avec le cinéaste Philippe Garrel. Elle était héroïnomane, Philippe Garrel aussi. Ils vivaient dans des conditions extrêmement précaires pour satisfaire leur addiction. Alors qu'ils avaient le fils de Delon, qu'il n'aura jamais reconnu, qui a écrit une biographie, d'ailleurs, je ne sais plus le titre, où il exprime ses blessures par rapport à son père, qui n'aura jamais voulu la reconnaître. Donc c'est vraiment une femme torturée, dont la vie est un sombre roman, avec des anecdotes croustillantes par rapport à toutes les personnes, tous les personnages qu'elle a connus, Jim Morrison, Iggy Pop, David Bowie, le Velvet, Andy Warhol, qui a été porté au nu, qui a des périodes un peu moins sombres. Alors c'est pas uniquement sombre, mais c'est vraiment un livre intéressant, c'est vraiment un roman. Voilà, sa vie est un roman. Ce livre, il n'est pas besoin d'être fan de Nico du Velvet pour le lire, parce que que c'est une véritable histoire. Après, le petit bémol, c'est que il faut quand même connaître cette scène musicale des années 60-70 auquel elle fait référence. Sinon, on passe à côté d'anecdotes croustillantes qui peuvent être intéressantes pour nous qui sont fans de cette époque. Je vais vous lire juste un passage sur Jim Morrison, justement, pour vous expliquer un peu. Le chanteur des Doors. Où elle dit...
C'est vrai qu'elle est particulièrement belle, cette femme.
Elle était très belle, ça a été vraiment une muse pour Fellini. Il a fait jouer dans la Dolce Vita, c'était un scandale total.
Ah, mais c'est elle qui est dans la fontaine.
C'est.
Non, c'est pas elle.
Non. C'était une égérie pour. Ben, Warhol disait que c'était la plus belle femme du monde, ça a toujours été. Et après, en plus de ça, c'était quand même une artiste, elle apportait des choses à la musique. Ses textes, ils sont recherchés dans le Velvet, elle a écrit des textes, c'était pas du blabla à fleur de peau, à fleur de rose, c'était vraiment quelque chose recherché. Elle jure avoir aperçu Jim Morrison, avenue de l'Opéra à Paris, quelques heures avant son décès, dans la nuit du 2 au 3 juillet 1971, à l'arrière d'une voiture noire. J'ai fait signe, mais il ne m'a pas vu. Il regardait droit devant lui, fixant la mort en face. C'était l'anniversaire de la mort de Brian Jones, Deston. C'est mon destin de mourir à la même époque. Le dernier jour de sa vie, le chanteur des Doors s'installait à Paris depuis quelques mois, s'est promené dans le quartier du Marais et a pris un verre dans un café place de la Bastille. Est-il ensuite ou auparavant passé avenue de l'Opéra? Quelle importance! Les livres de Carl Gustav Jung et de Camille Flammarion sont remplis de ces apparitions de défunts aux personnes qui les aiment, à l'instant précis de leur trépas, ou quelques heures auparavant. Nico croit au présage, au moment où Jim Morrison allait monter pour la dernière fois sur la scène de l'Hollywood Palladium. Elle a voulu lui donner une croix qui lui a échappé des mains et s'est brisée à leurs pieds. Voilà, donc c'est bien écrit, c'est bien romancé, c'est un chouette style, c'est des anecdotes sympas quand on aime les Doors, quand on aime tout ce monde-là. Donc voilà, c'est vraiment un livre intéressant sur ce personnage dont il y a beaucoup à dire. Voilà, c'est donc aux éditions Le Mot et le Reste, Serge Ferré, Nico, Femme Fatale. Voilà,
super.
Et on a parlé un peu d'héroïne, donc on va passer à une nouvelle chanson. Allez, c'est parti. Sex and drug and rock and roll, Valérie.
Ouais, tu vois, tu croyais que ça n'existait pas comme chanson.
Eh ouais.
Non, c'était la transition était toute faite pour parler du livre de Lester Banks, Fête sanglante et mauvais goût, avec une couverture du plus grand des mauvais goûts, avec un homme avec les yeux exorbités. Et c'est rigolo parce que le premier texte en fait raconte l'assassinat d'Andy Warhol. Donc ta transition était parfaite. Hein. On a bien fait de réviser avant.
On est bon.
Ah, on est au top.
Alors on travaille. Hein.
Ben oui, non, mais on met la barre super haut, je trouve. Par contre, tu risques de plus l'aimer dans pas longtemps, Lester Banks, vu le mal qu'il fait à tes groupes de musique favoris.
Ah mince.
Mais qui est Lester Banks? Lester Banks, c'était un journaliste et critique musical américain, auteur, musicien, qui a eu une très très longue vie puisqu'il est né en 1948 et il est mort en 1982, donc à 33 ans, comme toute bonne personne qui se respecte. Donc on sait aujourd'hui, mais à titre posthume malheureusement, qu'il aurait eu plein de choses à nous raconter, des romans, des essais, des livres en tout genre. Malheureusement, on n'aura pas eu le temps de voir tout ça parce qu'adepte de drogue et d'alcool, il est parti un peu tôt.
Ah, il a fait comme les groupes
ouais,
qui.
33 ans. Bien.
33 ans.
33 ans.
C'est
27.
C'est 27. Ah, je croyais 28 de 30. Ah non, 33, c'est comment il s'appelle, Lacroix.
Ouais, c'est la bière.
Ouais, c'est ça, pardon. J'y étais pas.
Pardon.
C'est ça aussi. En fait, il était très inspiré par des auteurs qui étaient Bukowski, Kerouac, par exemple. Donc, ça vous donne une idée. Il était à la musique ce que Bukowski était à l'écriture, je dirais. Voilà, pour vous donner un peu le style. Et c'est, en fait, le premier article qu'il a fait, il pigeait un petit peu pour le magazine Rolling Stones. Il a 20 ans, il y a le groupe MC5 qui sort son premier album. Tout le monde encense donc ce groupe, cet album, et lui, il y va de son avis bien négatif, il les casse complètement, et il va être assez dur même, et alors que tout le monde va dans l'autre sens, et ça va être un peu sa marque de fabrique d'être assez brut de décoffrage, de dire ce qu'il a envie de dire. Et voilà, et il baigne dans un monde de drogue, d'alcool, de débauche, et il est dur, mais il écrit bien, c'est-à-dire qu'il va, donc travailler pendant longtemps, il va faire une centaine d'articles pour Rolling Stone Magazine, Après, il va être viré pour manque de respect envers les musiciens. Donc quand même, quand t'es critique et que tu te fais virer par manque de respect, c'est que t'as mis la barre assez haute. Et après, il va être embauché par le groupe Crime. Il est méprisant, il a un goût pour la provocation assez exacerbé. Et par exemple, il disait des Led Zepp, qui moi je trouvais quand même c'était un groupe bien. Bien costaud, il les qualifie de pédales émaciées. Voilà. Par contre, à côté de ça, il voue un culte fou pour Lou Reed. Allez comprendre. Voilà. Donc il va écrire énormément de petites. Alors, en théorie, c'est des articles sur les groupes, sur les sorties de disques, d'albums. Mais dans ces articles, il va mettre vachement d'autobiographies, de points de vue personnels. Il va faire des liens avec la politique, enfin notamment sur l'assassinat d'Andy Warhol, parce qu'il veut qu'on appelle ça un assassinat et non pas c'est sa meuf qui lui a tiré dessus. Il va faire des liens avec la politique, puis il va dire que lui, ben, le jour où il l'a appris, comme il était sous un méthamphétamine, il l'a vu d'une certaine façon. Enfin, c'est assez intéressant aussi quand on s'intéresse à la chimie, on apprend à faire toutes les drogues qui peuvent exister, n'est-ce pas?
Non, il faut pas le dire. Héloïse, elle va avoir plein de jeunes qui arrivent. Bonjour, j'aimerais l'île de Valérie.
T'as une cave, hein?
J'adore.
Non, c'est parfait, super. Voilà, non, mais il faut quand même des bons dosages, donc c'est pas à la portée de tout le monde.
Facile,
ouais. J'ai essayé, j'ai pas réussi.
Voilà. Et ouais, on pensait que t'allais nous en amener, mais t'as amené des fraises.
J'ai amené des fraises, mais tu les as testées?
Non, justement.
Des fraises au sucre, quand même.
Non, elles sont pas sucrées. et en fait, ce livre, La Fête sanglante et mauvais goût, c'est un deuxième recueil, puisqu'il avait déjà fait. Enfin, c'est pas lui, parce que lui, il est mort, mais c'est un éditeur donc, qui a repris tous ses.
Un best-of de ses chroniques.
Ouais, une partie, parce que c'est un deuxième, deuxième livre, puisqu'il y avait Psychotique réaction et autres, Carburateur flingué, en 98 aux États-Unis, sorti en 96 en France. Qui reprenait déjà ces textes. Alors, après les textes en eux-mêmes, pour être tout à fait honnête, si on n'a pas déjà une petite connaissance du monde musical de cette époque-là...
C'est compliqué.
Ouais, ça va être un peu compliqué, puis on va peut-être moins accrocher, si tu veux. Il faut être un minimum au courant de l'histoire des Beatles, un minimum au courant de l'histoire des Stones, qu'ils détestent d'ailleurs, pour pouvoir apprécier à sa juste valeur, quoi. Là, j'ai sous la main un des titres d'un de ces articles qui s'appelle 1973e dépression nerveuse. Donc on est en 73. Les vieux hors la loi visionnaires ne sont plus ce qu'ils étaient. Et vous, pauvres enfoirés, je parle des Stones, bien entendu. Voilà, ça montre un peu le ton, c'est-à-dire que quand il n'aime pas quelqu'un, mais c'est après il explique bien pourquoi il n'aime pas.
Il juge que sur les personnes et pas sur la musique.
Non,
en
il
fait.
Juge aussi sur la musique.
Ah, sur la musique
et ce qui est intéressant, c'est que des fois il revient un peu sur ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il est capable d'enterrer quelqu'un, et puis quelques années plus tard, de revenir un petit peu, de
oui,
mettre
de
un peu
de dire je me suis trompée. Enfin, ouais. C'est vrai que il a l'air assez catégorique comme ça, mais bon, c'est aussi. Ouais. Son style qui fait que... Enfin, c'est sa marque de fabrique. Et après, moi, c'est vrai que je trouve ça assez drôle. Enfin, moi, j'adore ce livre.
Oui, c'est assez...
Ça peut sembler assez vulgaire, assez... Mais...
Il a un nom qui me dit quelque chose.
Le film, c'est presque célèbre.
Moi aussi, le nom me disait quelque chose. Ouais. Et il est tout à fait comme ça, le personnage dans le film. Il est assez marrant parce qu'il annonce la fin du rock, il est dégoûté, il pourrit tout. Il est chouette. Il embauche un jeune qui va bosser pour Crime Magazine. Le gamin, il a 13 ou 14 ans. Et il lui raconte des horreurs. Enfin, il est assez chouette le personnage et il ressemble tout à fait à ce que tu nous racontes là, quoi.
Alors apparemment aussi c'est lui. Mais ça j'ai pas trouvé trop d'infos. Ce serait lui qui aurait créé le mouvement punk en fait en choisissant un petit peu ce qu'il disait. C'était Lester Bank inventa, développa et promu une esthétique de joyeux dédain et d'amour de ceux qui pouvaient passer pour du déchet. À cela il donna le nom de punk.
Mais avec assez c'était lui dans un de ces articles qui a
créé ce nom.
J'ai pas eu le temps de chercher plus, mais c'est vrai que ça donne envie d'en savoir plus.
De creuser, d'approfondir.
Puis même des fois, il tacle des. Moi, il y avait certains. Je suis quand même plus Verschuren que Lou Reed dans la vraie vie, donc j'en découvre.
C'est bon Dédé.
C'est ça.
C'est bon Dédé Verschuren.
Voilà. Nico connaît pas.
Nico. André Verschuren.
C'est un accordoniste. Voilà.
Moi, tu sais, sorti.
Le pendant masculin d'Yvette Horner.
Voilà, moi, sorti d'Yvette Horner. Hein. Et son accordéon fou, sa tenue bleu blanc rouge, c'est j'ai ça. Du mal.
C'était sympa, les cheveux oranges. Je suis sûre qu'elle aurait plu à Lester Banks sous acide. Et voilà, ben, il est cinglant, là, par exemple.
Pourquoi
sur
Yvette Horner ne prendrait pas de l'acide?
Je pense qu'elle en prend.
Non, mais elle en prend.
Bah, pour jouer ce qu'elle joue, oui.
Elle en prenait, elle est décédée. S'habille.
Yvette Horner n'est pas décédée.
Mais non, elle est à l'Olympia là, le mois prochain. Mais bien sûr que non, elle n'est pas décédée.
Elle fait la première partie du...
Je vais chercher.
Non, je crois qu'elle est... Enfin. En tout cas, elle a passé les 33 ans, elle. Donc c'est super.
Peut-être pas, hein.
Peut-être pas.
On ne sait pas.
Enfin, voilà, donc il est... Le livre est vraiment sympa. C'est des petites... comme des petites nouvelles, en fait, qui ont des articles qu'il a fait paraître.
La couverture, elle est trash. Hein.
Ouais, c'est trash, ouais. Ah ouais. Ah ouais.
Tu allais nous donner un exemple.
J'ai fermé la page parce que je pensais qu'on allait se mettre à discuter de drogue.
Mais on en discute. Hein.
Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on en discute pas.
Elle est née à Tarbes, Yvette Horner.
À Tarbes.
En 1922.
Et elle est morte où ?
Mais elle est pas morte.
Elle est pas morte. Hein. Elle a 93 ans.
Mais elle est retournée à Tarbes, là.
Désolée.
Qu'on la fasse venir dans une émission spéciale.
J'aimerais bien. Hein.
Ouais, moi aussi.
Elle pourrait nous raconter le Tour de France, tout ça à l'époque.
Ah, j'ai une belle photo.
Ah ben, je pense qu'elle doit avoir beaucoup d'histoires croquantes.
Hein. Ouais, ça tombe bien, la semaine prochaine,
les
le thème c'est les vieux.
Les croquants, wow. C'est aujourd'hui ça. C'est, il lui montre une photo là, voilà. En direct d'Yvette Horner.
Ouais, les enfants,
elle a toujours les cheveux rouges. Hein.
Oh là là.
Hein.
C'est ça. Non, mais elle a un style qui correspond à une époque. Hein. C'est.
Non, mais c'est une virtuose. Hein.
Oui,
c'est
une virtuose, très bien dans sa discipline.
Quand on n'aime pas.
Elle est le louride de l'accordéon.
Tu pourrais nous lire ton petit passage, s'il te plaît.
On pourrait faire une émission sur les artistes
atypiques.
Atypiques.
Oui.
Non,
ah,
tiroir,
oui.
On a déjà fait.
Ouais. Hein, sur les artistes atypiques, ouais. Mmh. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de livres qui se.
Justement, ce serait des perles, peut-être.
Ouais.
Ouais. Allez, au boulot, Héloïse.
On verra.
Voilà. Donc, pour les petites chroniques, elles commencent souvent par des trucs assez violents. Là, sur Djello Biafra. Djello Biafra n'est pas un crétin. Il ne suffit plus d'être un connard hostile, hideux et hurlant. Vous remarquerez que je n'ai pas dit crétin, car Djello Biafra n'est pas un crétin. Et il commence toujours un peu, toutes ces chroniques un peu trash. Et puis après, comme s'il s'apaisait. Et puis, il est cinglant. Enfin, il est. Puis c'est fin ce qu'il dit.
Incisif. Tu sens que
c'est pas. Il va utiliser des mots des fois un peu grossiers. Il va ça va être toujours à bon escient, malgré tout. On est quand même là dans le milieu du rock. Enfin, il faut que ce soit un peu crady crado. Enfin, sinon c'est pas.
C'est pas rock'n'roll.
Sinon c'est pas rock'n'roll. Voilà.
Et donc, oui. D'accord, merci Valérie.
Ben avec plaisir.
Allez, on va entendre un extrait maintenant du prochain livre que Nico va nous détailler.
Mais enfin, un peu de douceur dans ce monde de fous.
C'est parti, attention.
Écoutez, c'est magnifique.
Émile, debout, il est 7h. Hein ? Quoi ? Comment ? 7h ? Il est 7h ? Déjà ? Oui, mon chéri, il faut te lever, c'est l'heure. Émile, ouvre les yeux. Ferme les yeux. Ouvre les yeux.
C'est rock'n'roll.
Ferme les yeux.
Voilà, nous n'allons pas parler de LSD, Nico. Mais alors, pas du tout.
Non, c'est l'histoire d'Émile.
C'est l'histoire d'Émile.
Capringo, non. Alors, en fait... Le ce petit bouquin, en fait, c'est une série d'histoires qui s'appelle Émile en musique, donc c'est un livre jeunesse.
Le livre jeunesse de l'émission.
Le livre jeunesse de l'émission. Alors pourquoi on en parle ? Parce que Émile, d'abord, s'appelait énormément à notre amie. Et du coup, elle a voulu vraiment qu'on en parle, mais elle a bien fait parce que Émile, donc, c'est une série de petites histoires. Donc il y a 6 ou 7 histoires. Là, sur celui-là, c'est un livre spécial puisqu'il y a un CD avec. Et en fait, il y a 10 histoires d'Émile. Et les histoires, donc, elles commencent tout le temps par « c'est comme ça et c'est pas autrement ». Voilà. Donc, c'est l'histoire, en fait, d'un enfant idéal. Un enfant idéal, mais pas vu du côté des parents. Pas comme les parents rêvent les enfants, mais plutôt comme ils sont vraiment. Têtu, râleur, obstiné, loufoque. Parfois, ils demandent des choses impossibles à leurs parents. Et parfois, c'est super drôle. Et c'est ce côté super drôle qu'on retrouve dans les histoires d'Émile à chaque fois, avec des chutes... qui le sont souvent très très drôle. Et du coup, dans ce bouquin qui est écrit par Vincent Cuvelier et illustré par Ronan Badel, voilà, ce sont des dessins très joliment faits. C'est très mignon, c'est très mimi. Le personnage, on le voit assez espiègle, hein. Donc c'est un petit garçon, qui en fait a beaucoup de tempérament, beaucoup de caractère, et qui vit dans son univers. Alors c'est souvent assez caricatural parce que bien sûr on n'a pas des enfants, on n'a pas tous des enfants comme ça. Les miens sont par exemple extraordinairement beaux et intelligents, et donc ils n'ont pas besoin de faire de s'obstiner comme ça, tu vois. Hein, il suffit que leur père leur parle et tout rentre dans l'ordre. Voilà. Et bien lui, pas du tout. Donc, il s'imagine, par exemple, un jour, qu'il veut avoir un plâtre. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Je veux un plâtre. Et donc, sa mère lui dit, mais tu sais, pour avoir un plâtre, il faut se faire mal. Ah oui, moi, je veux un plâtre, mais je veux pas me faire mal. Et donc, il imagine des tas de situations jusqu'à la fin de l'histoire, en fait, où sa mère lui dit, ne monte pas sur le rebord du fauteuil, tu vas tomber. Et puis au bout d'un moment, il n'écoute pas, il tombe et effectivement, il se fait mal, mais il n'a toujours pas de plâtre. Donc à la fois, les chutes sont très drôles. Là, l'intérêt, c'est qu'en fait, ils se sont associés au chef d'orchestre Marc-Olivier Dupin, d'Orchestre National d'Île-de-France, et qui aimait beaucoup déjà les histoires d'Émile. Et qui a décidé de mettre en musique et d'écrire toute la musique pour illustrer ce livre, voilà, sous la forme d'un CD musical avec la voix de Guillaume Marquet,
qui est resté tous à la gym,
et qu'on entend là, voilà.
Émile sourit.
Ouais, on entend l'orchestre derrière.
Et l'orchestre derrière, donc il a vraiment composé des myriades de musique très très différente, avec des styles très très différents suivant le contexte. Et on peut voir une petite vidéo sur l'Orchestre National et sur l'histoire de cette écriture, où il explique qu'en fait il a pas du tout il s'est vraiment attaché à redonner l'atmosphère générale et le contexte dans lequel évolue Émile. Donc c'est très fin, voilà, et la musique porte vraiment l'histoire, quoi.
Mais ils en ont fait un spectacle qui est passé à la symphonie de Paris. L'harmonie de Paris, pardon.
Comment tu fais? Tu lis l'histoire et tu écoutes le CD en même temps, ou c'est deux choses différentes?
C'est-à-dire que tu peux faire, tu prends l'histoire, tu prends le petit bouquin, tu le lis avec ton fils ou ta fille ou tes enfants. Voilà, tu lis s'ils savent pas lire, ou tu les fais lire et tu peux commenter avec eux. Et après, tu peux leur faire écouter indépendamment le CD.
D'accord, c'est voilà. Bien indépendant, ouais.
Alors tu peux le faire avant, tu peux le faire après. En fait, tu peux le faire dans n'importe quel sens. Ce qui est intéressant, c'est de leur faire écouter de toute façon le CD, puisque c'est vraiment intéressant. Et après, de reprendre l'histoire avec eux. Voilà. Mais comme les enfants ont une mémoire, une capacité mémorielle fantastique, au bout de deux fois, ils connaissent bien l'histoire et ils associent les sons à l'histoire. Et ça, c'est assez magique.
Donc
voilà.
Toi, tu l'as testé avec tes enfants, tu l'as fait écouter à Maël.
Voilà, je l'ai fait écouter à Maël qui a 22 ans. Et il a adoré, il s'est bien marré. Et il m'a demandé s'il était comme ça quand il était petit.
D'accord.
Et il était comme ça quand il était petit et c'était génial.
Ce sont combien voilà. Il y a combien d'histoires?
Il y a 10 histoires.
10 histoires, d'accord. Et il y a 10 pistes aussi. Donc c'est ça, 10 pistes, je crois. Ouais, il me semble. C'est une piste par histoire, finalement.
Oui, oui. D'accord. Alors là, il a mis tout ce qui s'appelle donc Émile en musique. Hein. C'est un petit recueil spécial.
Il pouvait mettre Émile en images aussi.
Et 1000 images.
Voilà. Ils seront présents à la foire de la brebis de Requista le premier week-end de juin.
C'est vrai? Tu vas y aller?
Certainement.
Ben oui.
En tout cas, Émile est impayable. Vraiment, son caractère, son look, ses aventures, tout est vraiment propice à provoquer la jubilation quand on lit ça. Moi, j'ai lu d'un trait un soir parce que tu t'en raffoles, t'as envie de savoir. Donc, Émile veut une chauve-souris.
On veut savoir, Nico, vu que tu l'as lu en un soir.
Émile a froid, Émile et les autres, Émile fait des cauchemars.
Est-ce qu'il est lourd?
Il est 7 heures.
Oh,
Émile
invite une copine.
J'ai pas compris.
T'as pas suivi, Héloïse.
Il pèse au bout de ses bras au lit.
Est-ce qu'il est lourd à lire? Si jamais tu t'endors avec le livre sur toi, est-ce que tu peux te faire mal?
Non, il est pas lourd. Sa question était lourde, mais ça, c'est pas lourd.
Non, maintenant, c'est important. Chaque émission va demander si les livres sont lourds.
Non, mais t'as vu la taille de l'ingène? De Blue.
Oui, je l'ai vu, ouais. Et alors?
Faites attention à vos commentaires devant Ludo, parce que il va...
Qu'est-ce qui pose problème, Valérie? Quel est le souci?
Alors, c'était simplement pour dire que bon, les effets de suspense de soupir, les notes joyeuses loufoques de l'orchestre subliment vraiment ses dessins. Voilà, ils rythment le récit qui prend une nouvelle dimension. Voilà. C'est drôle et irrésistible, et c'est ce que dit le télégramme.
Ok, merci Nico. C'est pas possible, les filles. Hein. Dès que ça parle de sexe, ça vous riez, vous. C'est quelle maison d'édition, rappelle-nous-le.
Mais là, ça parle pas de sexe avec Émile.
C'est Gallimard.
Ça parle de
moi. Je vous le dis, hein, c'est chez Gallimard, jeunesse, Giboulé.
Dès qu'on dépasse une heure et demie, c'est toujours un problème. Voilà. On commence à dire n'importe quoi. Il va vraiment falloir qu'on se
mette. Moi, je me suis bien régalé pour finir sur une note voilà, jeune public. C'est vraiment un beau moment. Et je le conseille vraiment. Ouais.
Okay.
Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Ludo, puisque tu l'as ? Émile veut un plâtre.
Je ne l'ai pas encore lu, figure-toi.
Ça va super à ton fils.
Non, mais j'ai eu un livre de combien de pages à lire en deux semaines ? De 300 pages. Quoi.
Quand même.
J'ai tout lu.
Regarde. C'est bien. Ah, tu t'es arrêté à la page 22.
Non, c'est la 64.
C'est une arnaque. S'il te plaît.
C'est la 64.
Grosse arnaque, c'est Ludo.
Allez, dans deux semaines, je suis pas là, moi.
Moi non plus.
Toi non plus.
Oh,
dans trois semaines, alors.
Alors, dans trois semaines, on va parler des vieux. Il y a une tendance, je parle familièrement, excusez-moi, mais il y a une tendance dans la littérature actuelle à parler des personnes âgées, à mettre en scène des personnes âgées. Par exemple, vous connaissez tous Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, c'est un immense succès. Et bien, il y a toute une vague de romans et de BD qui sortent sur ce thème-là, donc j'avais envie d'en parler.
Ah, c'est chouette.
Hein? On parlera fort et doucement.
Exactement. Tiens, en parlant de vieux, on va le laisser nous dire au revoir. Ciao à tout le monde. On va le balancer la gueule.
Au revoir.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.